France Inter.
Journal sur France Inter, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En Israël, ils ne veulent plus de Netanyahou et osent à nouveau le dire. Atténué par la guerre à Gaza, la fronde contre le Premier ministre israélien reprend de plus belle ces derniers jours. En agrégeant opposants de longue date et familles d'otages, nous serons à Jérusalem. 100 000 infirmiers libéraux en France et une colère croissante. 15 ans que leurs tarifs n'ont pas été augmentés. Mobilisation nationale aujourd'hui à Paris. Nous avons suivi une infirmière en zone rurale. Dans ce journal aussi, Jordan Bardella qui sèche les premiers débats des européennes. L'érosion des côtes, bombe financière à retardement pour les communes du littoral. Et en Afrique du Sud, les élevages de lions dans le collimateur des autorités.
Au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui le duo électro Justice de retour avec un nouvel album après 8 ans d'absence.
France Inter.
En Israël, Alexis, la pression politique s'accentue donc sur le Premier ministre.
Depuis le début de la guerre en octobre, l'opposition à Benjamin Netanyahou se faisait plus discrète dans le pays. La priorité était ailleurs. Mais voilà que la contestation reprend de l'ampleur cette semaine en Israël. Chaque soir, depuis lundi, des milliers de manifestants sous les fenêtres de la Knesset, le Parlement à Jérusalem, avec une forme de convergence des luttes entre familles d'otages du Hamas et opposants plus traditionnels qui s'étaient déjà mobilisés l'an dernier contre la réforme de la justice. Thibault Lefebvre, vous les avez rencontrés. Tous ont désormais le même objectif, la chute de Netanyahou.
Des élections immédiatement, c'est l'unique mot d'ordre de ces manifestations qui ont rassemblé pendant 4 jours des milliers d'Israéliens comme Mai Albini Perry.
Mon oncle a été assassiné le 7 octobre. Mon grand-père a été kidnappé. Ce gouvernement est responsable. En 6 mois, ils n'ont rien fait.
Mai Albini Perry est le petit-fils de Chaim Perry, 80 ans dans 2 semaines et otage du Hamas depuis 181 jours.
Sa vie dépend de ces gars-là. Je ne crois pas en eux et lui non plus, il n'avait pas confiance. Et c'est pour cette raison qu'en son nom, je dois crier pour que ce gouvernement s'en aille, parce qu'ils n'en ont rien à faire qu'ils reviennent.
Benjamin Netanyahou et sa coalition, la plus à droite de l'histoire du pays, accusés de continuer la guerre à Gaza pour se maintenir au pouvoir. Et ce n'est pas le seul grief. Ami Dror est un des piliers des deux précédentes vagues de manifestations que le Premier ministre a provoquées ces 4 dernières années.
Il y a aujourd'hui la pression des ultra-orthodoxes, la pression internationale, celle de la société civile. On remue le bateau et on crée des vagues jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Beaucoup de bonnes personnes et de bons pays essaient de sauver Israël de lui-même et nous y contribuons.
Prochain rendez-vous samedi soir à Tel Aviv pour une nouvelle manifestation qui réunira là encore des opposants au pouvoir et des familles d'otages.
Et la pression vient aussi du grand rival de Netanyahou, Benny Gantz, chef du centre droit et qui appelle ce matin à des élections législatives anticipées dès septembre en Israël. Entre la France et la Russie hier soir, un premier appel téléphonique de haut niveau depuis un an et demi entre ministres de la Défense en l'occurrence. Et ce matin, deux versions bien différentes de cet entretien. Les Russes affirment que les deux pays sont prêts à dialoguer sur l'Ukraine. Paris dément fermement. Puis il y a cette déclaration fracassante de l'exécutif russe à propos de l'attentat de Moscou. Nous espérons, je cite, que les services secrets français ne sont pas derrière ces attaques.
Il est 7h33. Depuis 2 mois, il multiplie, Alexis, rassemblements et actions coup de poing en vain.
Alors les infirmières et infirmiers libéraux haussent le ton avec une manifestation nationale ce matin à Paris jusqu'au ministère de la Santé, toujours pour réclamer une revalorisation de leurs tarifs de base. Ils n'ont pas été revus depuis 15 ans, alors que le métier est selon eux toujours plus difficile. Victor Dolande a partagé le quotidien d'une infirmière dans l'Essonne. Reportage.
Il est 14h, on va commencer la tournée de l'après-midi.
Eh ben on y va, je vous suis.
Infirmière libérale depuis 2016, Émilie Charron enchaîne les heures, les patients, les kilomètres aussi, entre 100 et 150 par jour. Dans les déserts médicaux, les infirmières sont souvent les seules à se déplacer au chevet des malades.
Avant, les médecins se déplaçaient à domicile, surtout dans les campagnes. Ils allaient faire leur tournée aussi, aller voir les patients les plus grabataires, les plus dépendants. Maintenant, c'est nous, sur des patients qui n'ont pas du tout la possibilité de se déplacer, c'est nous qui nous déplaçons.
Une cinquantaine de patients dans sa journée, la première c'est Bernadette.
Bonjour.
À 75 ans, elle sort d'une grosse dépression et ne peut plus se passer de son infirmière.
C'est elle qui me fait mon pilulier, elle me prend attention. Et puis c'est une présence pour moi aussi. Hein.
Pour cette visite, Émilie percevra 2,75 euros pour le déplacement. Ce sera à peine plus pour changer le pansement d'un patient diabétique récemment amputé.
On n'est pas suffisamment payé. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui fasse un travail sans être valorisé depuis 15 ans? C'est pas humain.
Émilie voit des collègues arrêter le métier. Ça la triste, mais surtout, ça l'inquiète pour les patients.
La France va mal. Enfin, je veux dire, si nous on disparaît, bah, ça veut dire qu'il y a une gérance qui est nulle. Et nous faire disparaître, bah, c'est faire disparaître les Français, en fait.
Elle espère que cette mobilisation finira par payer, mais refuse d'y laisser sa santé. Dans un coin de sa tête, elle pense même à une reconversion professionnelle.
À 2 mois des élections européennes, la liste RN caracole toujours en tête des intentions de vote. Est-ce pour cela que Jordan Bardella snob les premiers débats de la campagne? Il n'était pas sur Public Sénat il y a 3 semaines. Même chose mercredi prochain sur France 24, remplacé à chaque fois par un de ses colistiers. Et ça ne passe pas inaperçu, Élodie Forêt.
Ses adversaires, Gabriel Attal en tête, l'ont affublé d'un surnom, Bardépala, pour souligner la faible activité de Jordan Bardella ces 5 dernières années au Parlement européen. Nouvel angle d'attaque, son absence lors des premiers débats. Aux élections régionales déjà, il s'était une fois fait porter pâle, rappelle un conseiller LR. Jordan Bardella, lui, a trouvé une boutade et pourquoi pas Coquelicot TV, sourit-il quand il est interrogé sur son choix de ne pas aller sur Public Sénat, puis de justifier. Toutes les chaînes veulent leur débat. Impossible d'être partout. Trop coûteux en termes de temps, insiste un proche, pour un exercice qui, électoralement, ne rapporte rien, surtout si loin du scrutin. Privilégiez donc les débats organisés en mai, 5 en tout, ainsi que 2 duels contre Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann. 2 face-à-face qui, stratégiquement, peuvent avoir un intérêt, calcule Jordan Bardella, pour qui, à la fin, seul comptera l'écart avec la liste du camp présidentiel.
Et l'un de ces face-à-face, Bardella-Glucksmann, ce sera sur France Inter le vendredi 12 avril. Elle est sortie du coma. L'adolescente de 14 ans, violemment agressée mardi devant son collège de Montpellier, doit être entendue aujourd'hui par les enquêteurs. Dans cette affaire, 3 mineurs sont toujours en garde à vue, dont une camarade de la victime. Comment justement sécuriser davantage les établissements scolaires face aux violences, menaces, cyberattaques? Réunion cet après-midi au ministère de l'Intérieur. 150 écoles, collèges ou lycées sont jugés plus particulièrement à risque par les autorités. Lui harcelait son ex-femme depuis sa cellule de prison. On jugeait hier à Bobigny, Seine-Saint-Denis, un trafiquant de drogue pour avoir organisé une campagne d'appels et de messages téléphoniques menaçants contre son ancienne épouse, près de 200 certains jours. Emmanuel Leclerc a suivi l'audience à laquelle la victime n'a pas osé assister.
C'était quoi les 116 appels manqués en numéro privé à 22h42 sur le téléphone de votre ex-compagne ce soir-là, demande le président du tribunal. Et puis ces messages, sale pute, ça va être la guerre, ton père va finir à l'hôpital. Ça, c'est pas moi, ose le prévenu. Alors qui? On n'en saura pas plus. Des amis, ces co-détenus qui avaient tous des téléphones portables en prison. Une vraie technique de pression mafieuse, soupire un avocat venu pour une autre affaire. Durant toute l'audience, cet homme condamné à 5 reprises pour des trafics de drogue n'a fait que répéter que c'était sa faute à elle, tout ça, cette ex-compagne qui le tapait et qu'un jour, oui, il a frappé, peut-être 2 fois. On lui rappelle qu'il lui a serré le cou très fort aussi, qu'il aurait pu la tuer. Mais c'est elle qui me harcèle aujourd'hui, relance le jeune homme. On s'est connus sur un point de deal. Elle estime que j'ai de l'argent sale et que je dois payer. Mon fils est en danger avec elle, vous comprenez? Le président du tribunal, Youssef Badr, lui signifie que non, qu'est-ce qui justifie de telles menaces de mort? Surtout quand on veut revoir son fils au plus vite. Si j'avais voulu lui faire vraiment du mal, j'aurais pu. Vous avez vu mon casier judiciaire, comment il est blindé, tente l'ex-compagnon violent, quitte à s'enfoncer encore un peu plus.
Et cet homme a été condamné hier à 3 ans de prison ferme. La proposition de loi anti-PFAS sera-t-elle adoptée aujourd'hui à l'Assemblée? Ce texte écologiste vise à interdire les produits contenant ces molécules de synthèse qui polluent à l'infini. Le gouvernement se dit très réservé sur la méthode. Selon lui, c'est surtout à Bruxelles que ça se joue. Et quand des communes s'inquiètent pour la pollution de leurs eaux à ces PFAS, d'autres en bord de mer sont confrontées à l'érosion du littoral. 240 municipalités concernées et représentées au sein du comité comité national du trait de côte aujourd'hui. Face à un phénomène accentué par le réchauffement climatique, les élus veulent savoir, Sandy Dauphin, comment financer les mesures de protection.
Construire des digues, entretenir les dunes et parfois faire reculer des maisons et des commerces, les projets d'adaptation à l'érosion du littoral coûtent cher, s'inquiète Emmanuel Alzuri, maire de Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Quelle réponse pourrais-je et devrais-je apporter à un propriétaire qui un jour viendrait me voir en me disant « mais ma maison, elle va tomber de manière imminente, vous m'avez par exemple interdit de l'habiter en prenant un arrêté de péril, qui paye ?»
En Nouvelle-Aquitaine, 6000 logements, 700 entreprises et une centaine de kilomètres de routes sont menacés par l'érosion à horizon 2050, un défi que la région ne peut pas relever seule, explique son président Alain Rousset.
Il faut que Paris décide, quel que soit l'effort que va faire la région, le budget des régions françaises ne suffisent pas à régler ce problème. C'est un devoir national.
Depuis un an, un comité national du trait de côte planche sur les stratégies d'adaptation. Toutes les pistes de financement sont étudiées. Un fonds érosion, des taxes, mais aussi des mesures dans le projet de loi de finances pour 2025, le PLF. Sophie Panonac, le député Renaissance de Gironde, présidente du comité.
Les élus locaux, il faut qu'on les rassure aujourd'hui parce qu'il faut qu'on arrive à stabiliser ça et se dire que chaque année, dans le cadre du PLF, il y aura effectivement une ligne budgétaire. Mais voilà, on a besoin d'un financement pérenne et stable. Ça, c'est clair.
Le comité national du trait de côte fera ses propositions finales au mois de juin. C'est là que débuteront les négociations avec Bercy.
Sandy Dauphin. Et il est 7h40, suite et fin de votre journal, Alexis Morel. Des lions élevés pour être chassés ou domestiqués. Je vous emmène maintenant en Afrique du Sud, où c'est une pratique ancienne et même un vrai business. 8000 fauves y sont élevés en captivité pour être ensuite vendus à des organisateurs de chasse privée. Mais c'est peut-être bientôt fini. Les autorités sud-africaines craignent pour l'image du pays. Elles veulent donc renoncer progressivement à cette industrie. Romain Chanson à Johannesburg.
C'est un long combat qui finit par payer pour Louise Deval. Elle dirige l'ONG Blood Lions qui milite pour la fermeture des élevages depuis 2015.
We've never been closer to
On n'a jamais été aussi proche de mettre fin à une industrie aussi immorale fondée sur l'exploitation. De nombreux lionceaux sont arrachés à leur mère prématurément pour être utilisés dans des attractions touristiques quand ils sont un peu plus vieux. D'autres sont abattus dans des chasses fermées.
Richard York, le patron d'une association d'éleveurs, accuse le gouvernement de se soumettre au terrorisme émotionnel. Il lui reproche aussi de ne proposer aucun dédommagement à ceux qui accepterait de se reconvertir. Il prend pour exemple un fermier volontaire qu'il connaît.
Il a fait part de sa proposition en leur disant qu'il possédait une ferme de 3000 hectares dans le Kalahari. Il leur a dit « Mon activité n'est viable qu'avec le commerce des lions. Si vous retirez mes lions, tout mon élevage d'animaux sauvages s'effondre. »
Si le gouvernement parvient à abolir l'élevage des lions dans les années à venir, les éleveurs pourraient se tourner vers d'autres carnivores, comme les tigres, une espèce pourtant étrangère au continent africain. Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
8 millions en captivité, il n'y en a que 3500 à l'état sauvage en Afrique du Sud.
Alexis Morel, merci. À suivre, Yael Gauss, Dominique Seux, Sonia De Villers.